Attention, vous êtes prêts à appuyer sur vos magnétophones. Vous allez maintenant pouvoir enregistrer.
Émission 0.
1-1-1-111.
1, 2, 3, 4.
Bonsoir. Bienvenue sur Radio Campus, Bruxelles. 92.1 FM. Nous sommes le lundi 2 octobre, il est 22h31. Pour cette rentrée universitaire 2017, la société Googleplex prend en otage le temps d'antenne, pourtant rare et précieux, d'Alvarez et de son émission Zéro. Vous allez pouvoir écouter, en partie, les résultats de l'opération à grande envergure de Googleplex. Pendant un mois, c'est vous qui êtes venu enregistrer vos rêves dans notre micro. Pendant une heure et demie, c'est nous qui les diffusons sur les ondes de la bande FM de la région de Bruxelles-Capitale. Avant de commencer, nous tenons à remercier Alice Gallery pour son support inqualifiable et pour nous avoir prêté son pignon sur rue. Et aussi, Radio Campus, pour la disponibilité de sa fréquence. Voici sans plus attendre, des fragments d'inconscient collectif, des créations automatiques de l'esprit humain, des preuves de l'existence d'une sphère supérieure. Des rêves. Enregistré en septembre 2017, par
Stop de Savoie, je sais pas où je vais, Norvège, Pays-Baltes. Je me suis fait poser en plein cœur de Bruxelles. Je me suis bu une petite chimée blonde. Je suis allé voir le mannequin pisse, c'était pas bien intéressant, une petite statue qui pisse. Voilà, j'en ai fait le tour, une photo, je me barre. J'essaie de trouver la sortie de la ville. Je m'arrête dans un petit quartier, dans le bar d'en face. Je vois un mec un peu artiste, je lui paye un coup, il m'en repaye un autre. Et j'observe les façades. Je vois des belles choses, des arbres qui grimpent sur les façades, je vois de la brique, je vois de la peinture. Puis je vois une petite devanture qui nous invite à entrer pour nous partager ses rêves. Je rentre, on discute.
En fait, c'est censé être Bruxelles, mais ce n'est absolument pas le contexte bruxellois. Je tourne une rue et je me retrouve dans un tout petit parc avec plein d'animaux. Tous ces animaux sont libres, mais personne ne les voit. Ils sont renfermés dans ce parc, personne ne sait qu'ils existent. Donc je me dis, ah, c'est étrange, c'est comme si c'était un zoo qui avait été abandonné, mais dont la ville n'a pas connaissance. Donc je rentre dans ce zoo, et ils sont libres, il y a un koala, un guépard, un ours, une panthère, après des petites belettes, des animaux un peu variés. Pas beaucoup, hein, je dirais une vingtaine en tout, mais dans un grand espace avec des palmiers, du sable, un espace un peu paradisiaque. Donc je décide que tous les jours, je vais aller les trouver. Donc je me vois tous les jours rentrer dans ce petit espace, cet enclos, et je leur amène à manger. Et je leur parle, je leur dis à chaque fois, il faut absolument pas que vous sortez de cet enclos, parce que l'être humain est méchant, il va vous mettre dans des cages. Et en fait, je vois que dans la ville, les gens deviennent de plus en plus excités. On dirait que c'est presque une guerre. Ça fait un peu Moyen-Âge, mais ça ne l'est pas. Mais je sens que la guerre arrive, ou plutôt même une guerre civile.
Il y avait une sorte de secte, une communauté de personnes qui étaient tous dans une... Je me souviens de penser, ah, ça doit être l'Amazon, une énorme forêt Et cette communauté croyait en quelque chose qui était une manière de se rapprocher à la nature. Ils avaient trouvé, c'était avec un certain arbre, l'écorce. Et cette écorce, il était très proche de la peau humaine et ils utilisaient ça sur leurs bras. L'écorce, il se mêlait avec la peau d'une manière plus ou moins naturelle. Il fallait vraiment suivre le protocole comme dirigé par le gourou de cette secte qui, c'est avéré, était John Travolta.
Les maisons, en fait, elles se transforment en sorte de visage. Et les fenêtres, c'est comme des yeux comme des trous béants, noirs. Et la bouche aussi. Et puis, il y a une sorte de force qui aspire, en fait, à partir de ces maisons. Et puis, alors qu'on marche, chaque membre qui m'accompagne est entraîné en fait dans une des maisons visage et au final je me retrouve seule.
Je suis dans une expo, dans une foule, en fait ça se passe aux Beaux-Arts. Je visite une exposition et ça ressemble à Ikea. C'est-à-dire, t'as des petits, un petit circuit comme ça, et autour de toi, t'as des petites scènes d'intérieur. Et on est vraiment les uns derrière les autres, assez serrés. Et puis, à un moment, je m'extrais de la foule, je rentre dans le décor, et je regarde un peu plus loin, je regarde les tables, les armoires, et je me dis, mais ça ressemble à Ikea. Et en même temps, je me dis, mais c'est de la qualité, ce sont des beaux meubles, c'est la belle marqueterie. Et en fait, on s'en fout que ça ressemble à Ikea, c'est juste cool. Ouais, je suis dans une expo. Ça, je rejoins la foule et je me sens plus léger. Et à ce moment-là, les escaliers montent et je me rappelle qu'on vient d'autoriser le vol à ce moment-là. C'est-à-dire que je me mets en lévitation et je me soulève, je suis au-dessus des gens et doucement, très doucement, à pas d'homme, j'avance au-dessus de la file qui attend pour sortir et j'avance... aller à 3 mètres de haut, comme ça, jusqu'à la porte, juste un peu trop haut pour passer en dessous de la porte.
Et la porte s'ouvre, et l'ascenseur, il est hyper petit, tout triangulaire, comme ça, tout pailleté, noir, un peu comme dans une boîte de nuit. Et donc, je rentre, et la porte se ferme pas bien. Et là, il y a un couple qui arrive, et ils ont l'air de connaître beaucoup mieux que moi comment ça se passe. Ils me demandent de sortir, puis ils entrent dans l'ascenseur, et là, ils ferment la porte, et l'ascenseur monte. Et moi, je suis restée là, devant la porte. Alors, je suis hyper emmerdée parce que je dois prendre mon train. Je commence à stresser. Je me dis, merde, comment je vais faire? Je ne sais même pas comment on appelle un ascenseur. Et là, il y a une autre personne qui arrive. Et en poussant un bouton, il y a une autre porte qui s'ouvre complètement à côté. Et là, je monte avec lui dans l'ascenseur qui n'est pas très pratique non plus parce qu'il est aussi tout petit, mais de manière... C'est comme une pyramide inversée. Il est tout en verre, les bancs sont pailletés et au moins il est moins claustrophobique parce que comme il est en verre, on voit partout par terre, on voit quand on monte. Donc moi je sais pas où je dois aller, mais je sais que la passerelle, elle est tout en haut du bâtiment. Donc je me dis que je vais aller à l'étage le plus haut. Et alors je comprends rien de ce qui est indiqué sur les chiffres, enfin, c'est illisible, donc je me dis bon, je vais essayer d'aller au plus haut. Arrivé en haut, il y a une espèce de porte coulissante qui s'ouvre et un rideau blanc... hyper chic, et là, je me dis, bon, je sais qu'il faut que je reprenne un autre ascenseur. Mais je connais toujours pas l'étage, donc j'appuie sur le 3, le 4 et le 5 pour essayer. De toute façon, le 5, c'est le dernier qu'il y a. Donc je me dis que je vais voir quand les portes s'ouvriront. Alors cet ascenseur, il est encore plus étrange, il est rond, et la plateforme pour les pièces, elle est toute blanche et moelleuse. Et je sais pas vraiment comment me tenir dans l'ascenseur, parce que comme c'est une espèce de sphère, je me dis, oh là là, je vais me casser la gueule. Et encore pire, il monte de manière circulaire, en fait, comme un... Au lieu de monter verticalement, il fait des cercles de plus en plus grands. Et en fait, son centre de gravité, il change tout le temps. Donc, je roule complètement dans l'ascenseur. Et il est aussi super futuriste, orange, transparent. Et du coup, je vois aussi à travers l'ascenseur ce qui se passe autour de moi. Et il monte de plus en plus lentement. Et à un moment, il s'arrête. Et je vois qu'en dessous de moi, il y a tous des gens qui me regardent comme ça, comme dans un centre commercial. Ils me regardent tous comme s'il y avait un problème. Et je me rends compte qu'il y a un problème. Et en fait, il voit que je me suis trompée d'étage. En fait, le cinquième étage n'existe pas encore. Et moi, je suis quand même au cinquième étage. Donc, je suis en haut, dans la sphère, en haut de cette espèce de spirale. Et alors, j'arrive à ouvrir la porte un peu difficile et à me glisser en dehors de l'ascenseur sur une petite plateforme. Une toute petite plateforme qu'ils ont commencé à construire. Et je me hisse. Et en fait, je n'arrive pas à sortir de l'ascenseur parce qu'il est devenu un peu comme un... Comme une combinaison transparente, un peu comme une mue. Il me colle comme une combinaison en plastique et il me colle. Et donc j'essaye de le détacher et je me hisse avec mon sac à dos. Tout le monde me regarde en hauteur et j'ai hyper peur de tomber. Et je me débarrasse de cette peau transparente de l'ascenseur, et, comme cette mue. Quoi. Et je suis dans cette espèce de centre commercial super futuriste. Et les gens, ils me regardent et ils se disent... Purée, elle savait pas qu'il y avait pas de cinquième et tout, la pauvre. Et moi, je me dis, mais pourquoi on peut aller au cinquième s'il n'existe même pas?
Et John Travolta, il était un maniaque qui grimpait les arbres plus en plus rapide sans utiliser ses mains. Il montait les arbres et tellement il était déjà proche. Il était vraiment l'être dans cette secte, le statut le plus haut. Et il avait... Bah, il était très encorsé, si tu veux. Et il grimpait les arbres et on voyait des images des arbres qui poussaient très vite, comme si c'était des sortes d'explosions. Mais on regardait bien, c'était des sortes de time-lapse des arbres qui poussent d'un grain à adulte. Et c'est John Travolta qui grimpe les arbres sans bouger son corps presque, et avec un grimace... Ouais, une grimace d'un junkie et tout le monde qui utilise cette écorce du coup sur leur corps et avec le but de se rapprocher de plus en plus de l'arbre, de la nature qui était représentée par ces arbres. Et à un moment, il y avait les images d'un chemin dans la forêt et on regardait vers le haut et il y avait des formes haut dans les arbres, peut-être 8-10 mètres de haut, 20 mètres de haut, il y avait des sortes de boules qui comme des tumeurs, comme les arbres qui avaient des tumeurs qu'on voit des fois en vrai. Mais on savait tout de suite que c'était les personnes qui ont réussi, qui ont plus ou moins atteint l'endroit le plus haut dans l'hiérarchie de cette secte, qui était d'être complètement absorbé par l'arbre.
Thank you. y a une armoire trop laide. Juste une armoire Ikea, même pas. Et sur l'armoire, il se trouve trois bustes en latex rouge. Et leur tête, c'était comme des masques macho libre. Et je les provoque. Ils sont en train de bouger, ils bougent. Et ils essaient de s'embrasser l'un l'autre. Ils sont attachés. Ils sont tous les trois attachés. C'est bizarre, j'entends le bruit du latex rouge qui fait un frottement, quoi. Et du coup, je veux les provoquer et je dis « fuck you » hyper fort. Et du coup, le masque devient un masque de Power Ranger. Ses yeux s'ouvrent, il fait un flash. Ça fait flash dans tout l'espace et il me scanne. C'est comme s'il m'avait scanné et j'avais hyper peur. Mais je n'étais pas d'accord avec ce masque et je le refais. Je fais « fuck you ». Et de nouveau, il fait un flash et il se transforme en petite brique plastique. Une brique en plastique qui flotte vers moi. Et je prends cette brique en main et c'est comme si j'avais découvert une nouvelle matière, un nouvel élément. Et du coup, j'arrive à me déplacer avec cette brique dans l'espace hyper vite. Alors là, il y a mes potes qui m'appellent et je dis ok, bon. Et je sais pas ce que je fais avec cette brique. Je l'ai oubliée. On se retrouve dans un bar, ça se passe assez vite. Dans un bar où... En fait, on est en train de rentrer à la maison. Et on passe à un bar dans lequel, quand j'arrive là, je me réalise qu'en fait, je travaille. Et je sens quelque chose qui grimpe sur mon épaule. Mais je sais pas très bien ce que c'est. Et je travaille, je fais la lessive. Et les gens parlent, il y a beaucoup de bruit, j'entends presque rien. Et du coup, il y a quelqu'un qui me montre une vidéo sur son iPhone. Et je vois que c'est moi, il m'a filmé il y a quelques instants. Il m'a filmé. C'est une copine à moi qui est en train de grimper sur mon épaule, qui devient tout petite. Et elle se met sur mon épaule comme un perroquet, en fait. Elle était toujours là, en fait. Ensuite, je me retrouve avec ma copine dans le lit. Elle veut faire un Skype avec sa meilleure pote. Et elle ouvre le Skype et sa meilleure pote est en train de se masturber devant la caméra. Et je regarde pas, je dis « Oh, pardon, c'est privé. » Et ma copine, elle dit « Non, t'inquiète, elle fait ça tout le temps. » Alors elle dit « Tu veux voir la partouze qu'ils ont fait en vacances ?» Donc elle me montre.
Je suis dans une ville et je me rends à une sorte d'hôtel avec mon compagnon. Et c'est un hôtel un peu cheeky, un peu... pas un hôtel de passe, mais en même temps, il y a des lits qui sont faits pour qu'il se passe des choses. Il y a des serveuses qui sont soit toutes nues ou qui montrent leurs seins, qui sont dehors. Enfin, qui servent et qui montrent en fait leurs atouts, on va dire. Donc, il y a toute une atmosphère érotique assez chargée dans l'hôtel. Et on est avec le tenancier, enfin, quelqu'un de l'hôtel qui nous montre, voilà, les chambres. On passe dans les couloirs et on voit que tout est fait pour qu'il se passe des choses. Il y a des coins spéciaux avec de la moquette, du velours, ou je sais pas très bien. C'est un peu, il y a une ambiance très, très glamour comme ça. Les matières sont douces. Et puis finalement, on choisit une chambre dans laquelle il y a quand même deux lits. C'est pas non plus la salle vraiment. On avait visité une salle, c'était genre salle pour les orgies, avec des coins partout et plein de lits, etc. Et là, c'est juste deux lits, mais quand même des lits ronds, enfin des matelas ronds avec le support du lit est vraiment très, très grand. Et puis finalement, on se couche et en fait, je me réveille le matin et il ne s'est rien passé, en fait. Donc, on a juste dormi. Et donc, ça, c'est mon réveil. Dans mon rêve, je me réveille et je me rends compte qu'il n'y a pas eu de sexe, il n'y a pas eu d'amour, il n'y a pas eu de câlin, il n'y a pas eu de tendresse, il n'y a pas eu de... On a juste dormi, on s'est reposé, on était fatigués.
Et je courais dans... la rue était une pente, c'était dans la ville. Et j'étais en train de courir vers le bas, très vite. Et j'étais nu. Et je me suis dit, c'est pas grave, car c'est mon anniversaire. Les gens, ils vont comprendre que si c'est ton anniversaire, tu es festive et tu peux, par exemple, enlever tes vêtements. Et je me dis, où est tout le monde? Et tout le monde était à côté. Ils étaient en train de manger déjà au restaurant italien. Et il y avait tout le monde, tous mes amis, ou en tout cas beaucoup. Et je disais, mais pourquoi vous ne m'avez pas invité pour le dîner de mon anniversaire? Et ils disaient, ah, mais on a essayé de te convaincre, mais tu voulais pas venir. Je dis, mais non, c'est pas vrai. Et je savais qu'ils disaient ça pour pas être coupable. Et ils inventaient. Et l'autre ami disait, ah, mais peut-être il a pas entendu. Moi, non plus, j'ai pas entendu. Bon. Et je dis, bon, ok, j'étais un peu déçu. Je rentrais dans la maison à côté. Et je me suis dit, bon, je vais partir, je vais dormir ou quelque chose. Et puis, il y a ma mère qui arrive. Et ma mère dit, alors, on va manger. Mais je dis, mais non, les autres, etc. Et puis, j'étais avec ma copine et ses deux meilleures copines et un vieux monsieur. Et le vieux monsieur, pendant que ma copine voulait faire l'amour avec sa copine, il y avait le vieux monsieur dans le couloir qui parlait à l'autre copine, qui disait, je crois que vous avez... un petit caca dans les cheveux. Et elle touche ses cheveux. Je lui dis, ah, pourquoi? Allez, zut. Et il disait, non, 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 c'est juste une manière pour dire, ça pue ici. Ah, ok. Et puis, le vieux monsieur envoyait la fille pour trouver où ça pue. Mais il y avait deux endroits dans la ville très écartés, il fallait chercher, mais elle était très sage et elle allait chercher ce qui puait. Et puis, moi, j'ai essayé de faire l'amour avec ma copine et sa copine. Mais...
En fait, quand on arrive chez elle, c'est gigantesque. C'est un espèce de grand loft blanc. Et il y a quelqu'un assis au milieu sur une chaise qui se fait coiffer. Et elle nous demande de patienter. Et donc, Alberto s'assoit sur l'estrade, parce qu'il y a une sorte d'estrade. Et là, il y a la mère de ma coiffeuse qui arrive, aussi toute petite, toute grassouillette, et elle a l'air super jeune. Et elle est habillée avec une combinaison... de type plongée, couleur chair, avec un soutien-gorge, une culotte, des grandes bottes et une robe en tulle, toute transparente. Puis après, elle part se cacher, et quand elle revient, elle est toute nue, et elle s'assoit de manière un peu sexy face à Alberto, et elle lui dit, voilà, ben, maintenant tu as quelque chose à regarder pour patienter, tu peux me regarder, tu peux me dessiner si tu veux. Et moi, je suis juste derrière Alberto, et on est tous les deux face à cette femme, et moi, je lui réponds un peu énervée, comme ça, un peu jalouse, que moi, je vais pas être jalouse, je risque pas de m'ennuyer. Hein. J'ai quatre tout petits bébés tout nus juste à côté de moi à regarder. Donc, j'ai quatre fois plus de petits trucs tout nus à regarder. Donc, c'est encore mieux. Et en fait, ils sont tous les uns sur les autres comme une portée de chiens. Et là, commence à avoir de plus en plus de gens qui arrivent dans cette pièce. Et ça commence à avoir un peu de musique, ça commence à être un peu la fête. Et moi, je commence à sentir mes dents qui partent une à une, et je les garde, et je les garde précieusement. Et à ce moment-là, c'est à mon tour de me faire coiffer, et je perds encore une dent. Et en fait, je sens, c'est même plus des dents, c'est des petits bouts de dents. J'ai la bouche qui est complètement pourrie, et je demande à la coiffeuse si elle peut me donner un récipient pour mettre mes dents, parce que... Je les mets dans mes poches, mais bon, j'ai qu'une envie, c'est de pleurer. Et voilà, je finis par perdre toutes mes dents. Et elle me dit que c'est pas très grave, mais j'ai la bouche toute pourrie.
Et donc, du coup, je m'endors et je me réveille. Et c'est l'angoisse. Et je sais, je sens qu'il y a comme... et je sais ce qui se passe déjà, mais pas vraiment. Enfin bref,
Du coup, j'entends vraiment des gros bruits, comme un tremblement comme ça dans le sol. Toute ma famille est là, on est tous super angoissés. Et en fait, on sait qu'il y a des dinosaures qui sont là et qui sont dans la forêt et qui arrivent vers nous, quoi, qui arrivent vers la maison. Et on est vraiment dans une angoisse folle. Donc on se prend tous par la main, on sort de cette maison pour monter tout un petit chemin en gravier
vers chez mes parents. Et là, sur le chemin, je vois un corps complètement inerte à terre. Du coup, je me dis que je ne vais pas laisser cette personne-là et je la porte sur mon dos comme une espèce de gros sac à patates. Et je le trimballe jusque chez mes parents où je sonne, ils m'ouvrent et me disent qu'en fait, c'est mon corps que je suis en train de porter. Et donc, on part en espèce de file indienne pour l'amener quelque part, pour chercher de l'aide.
Donc, je commence à avoir de plus en plus d'inquiétude pour ces animaux. J'y vais à chaque fois et je leur parle, mais ils ne me comprennent pas. Mais en même temps, presque, on dirait. Donc, j'insiste à chaque fois qu'ils ne doivent pas sortir. Et un jour, j'arrive et je trouve qu'un koala est en dessous d'un banc, comme s'il avait été mis avec... Je ne sais pas s'il avait des fils qui sortaient de lui, comme s'il était en plein... soins intensifs. Je me disais, ah, mais qu'est-ce qui lui a fait ça? C'est pas possible. Ça se voit qu'il est malade, mais c'est un docteur qui sait pas s'y prendre, je sais pas du tout. Donc, j'essaie de sortir le koala de cet espace en dessous d'un banc. Et là, il y a la panthère qui s'approche de moi. Et donc, j'essaie de me dire, ah, mais il y a un docteur qui est passé par ici et tout. Et finalement, la panthère se met sur ses deux pattes. Il y a ses yeux, ils s'allument, ils deviennent bleus, des grands yeux bleus, comme s'il y avait, c'était des lumières bleues. Et elle commence à me parler, elle me dit « Je suis le dieu Shiva, et c'est moi qui m'occupe des animaux ici, je suis le docteur. » Alors là, je vénère le dieu Shiva, je me prostre devant lui, je fais « Ah, c'est toi qui t'occupes de ce koala, je pensais que c'était un docteur n'importe qui allait passer... le soigner, mais si c'est toi, je te fais complètement confiance, Dieu Shiva. » Et donc, elle a une grande voix assez rauque, toujours sur ses deux pattes. Et donc, je vois qu'en fait, tout cet espace, c'était lui qui l'avait créé. Et alors, je commence à parler à ce docteur panthère, Dieu Shiva, et je veux toujours insister qu'ils ne doivent absolument pas sortir de l'enclos. Et à un moment donné, je pars et tout a disparu.
Thank you. Donc, en fait, je me réveille sur un bateau avec un plancher en bois. Donc, je commence un peu à marcher sur le bateau pour voir un peu où je suis, parce que je suis totalement tout seul sur ce bateau. Il continue à naviguer. Puis, lointain, j'entends une petite voix qui m'appelle. Il dit mon nom, il dit Ilyes, Ilyes. Puis, je vois un grand arbre, et le bateau, il allait tout droit vers cet arbre. Donc, à un moment, le bateau touche le sol, et je dois continuer à la nage. C'était pas très loin, mais j'y suis allé. Puis, à cet arbre, il y avait un sort de lézard géant. Mais ce lézard, il était pas méchant, il était gentil. Et il y avait une genre de selle sur ce lézard, donc j'ai monté dessus. Puis j'ai continué, c'était un genre de désert énorme. Et on marchait, j'avais soif et j'avais faim, mais je devais continuer pour faire quelque chose. Puis à un moment, je me dis, je vais m'arrêter un peu, je vais un peu marcher, parce que je commençais à avoir mal aux jambes. Je commençais à marcher, et à un moment, je trébuche sur quelque chose. Puis je vois que c'était plus du sable, mais c'était une genre de trappe en fer. Donc j'essaie de l'ouvrir et ça s'ouvre. Il y avait une grande échelle d'au moins 30 mètres et j'ai descendu cette échelle. Puis tout à fait en bas, je suis tombé dans une énorme bibliothèque avec plein de livres partout. Et un hibou de 3 mètres apparaît devant moi et me dit « Bienvenue dans ma bibliothèque. Tu peux étudier tout ce que tu veux dans cette bibliothèque. Tu peux savoir tout ce que tu veux, mais tu peux le dire à personne. » Je lui dis « Ok, mais c'est quoi les conditions ?» Il m'a dit « Si tu révèles une information que tu as trouvée dans cette bibliothèque à quelqu'un d'autre, j'ai détruit la bibliothèque et toi-même. » Donc j'ai accepté et j'ai essayé de bouquiner un peu dans les livres qu'il y avait. Il y avait des livres scientifiques avec des formules très compliquées que je ne comprenais pas du tout. Donc je m'avance dans la bibliothèque et à un moment je vois une grande pièce avec des étoiles sur le mur et avec un ordinateur et un clavier juste au milieu de la pièce. J'y vais et il y a écrit « Écrivez un nom ». Donc je me dis, je vais écrire le nom de ma mère. Dès que j'ai fait ça, je vois qu'il y a écrit « suicide ». Je croyais peut-être que c'était des causes de mort. Il y avait une date. C'était une date très lointaine. Donc je me dis, je dois appeler ma mère, comme ça elle sait ce que j'ai vu. Et voilà. Donc je l'ai appelée, je lui ai tout dit. Et après cet appel, le hibou apparaît derrière moi. Il me dit « Tu as appelé quelqu'un et tu as révélé les informations, donc je vais devoir te détruire. » J'avais peu d'espoir, donc je commençais à courir dans la bibliothèque, mais la bibliothèque était vraiment énorme. Je commençais vraiment à me perdre et les livres devenaient de plus en plus grands. Et à un moment, un livre m'est sauté dessus et voilà, c'était terminé, je me suis réveillé.
Sur 24 heures, 7 jours sur 7 jours, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, chaque jour de la semaine, appelez la hotline Googleplex quand vous vous réveillez en sueur pour nous raconter vos rêves. Hotline Googleplex 0489 369 644 0489 369 644.
Bonjour. Bienvenue sur la hotline Googleplex. Veuillez enregistrer votre rêve après le bip.
Goeiedag. Welkom bij de Googleplex hotline. Vertel uw droom na de bip aan UB.
Hello. You have reached the Googleplex hotline. Please describe your dream after the tone.
Salut les garçons, bah écoutez, c'est Yacine. Je voulais passer cet après-midi vous raconter mon rêve, mais bizarrement, c'est la première fois que je me souvenais pas de mon rêve. Donc voilà, dès que je me souviens de mon rêve, je vous appelle et voilà. Bisous, bisous.
J'étais chez Mathis, un ami à moi, et il avait une maison plus grande que chez le roi. Il y a une pièce où on allait tout le temps. C'était le salon où il y avait ses pépés et ses mémés. Et on voulait aller voir la mer. On a été la voir. Il y a eu de très grosses vagues, donc on est vite parti. On est revenu en courant. Il y avait un monstre qui nous poursuivait. Et on a été dans sa bibliothèque. Il y avait plein de livres. J'ai ouvert un livre et c'est là que ma maman m'a réveillée.
Il y a mon frère et ma mère et mon père qui m'ont inscrit dans un sort d'internat. On devait tous aller l'un après l'autre. On devait se mettre sur un podium. On devait s'occuper avec des sortes de jeux physiques. Je ne sais pas ce que c'était exactement. Mais c'était un peu des jeux de science. Et moi, je ne connais rien naturellement de tout ça. Si tu n'arrives pas à le faire, on te met de côté et les portes s'ouvrent et tu sors vers un univers un peu en clos, quoi, où c'est fermé avec des murs autour de toi et tu mourras. Tu peux mourir avec des, il y avait des sortes de bestioles robotiques, je sais pas quoi, qui rentrent dans ta peau et puis tu meurs de cette façon-là ou bien tu meurs dans une autre façon avec une sorte de balle dans la tête ou je sais pas quoi. Et donc j'étais obligé de rester dans l'internat et de faire l'exercice. Il y avait des jurys. Moi, j'étais à côté de tout le public, j'étais seul. Et j'ai commencé à parler au jury en pleurant pour dire, voilà, je n'ai pas envie de m'inscrire, j'ai envie que je puisse rentrer à la maison parce que je n'ai pas envie de mourir.
Alors, je me faisais poursuivre dans les rues de San Francisco par l'actrice Gina Davis, qui était aussi un mélange avec l'actrice Glenn Close. En tout cas, une femme bien bâtie, assez impressionnante, très grande, qui me poursuivait sans relâche dans les rues. Et j'arrivais à me cacher dans les maisons, dans les salles de bain des maisons, voire dans les toilettes des maisons. Et il y a un moment où elle me rattrape, je me cache dans la cabine de douche avec une bombe aérosol d'Airwick rose dans les mains. Et quand elle arrive à me retrouver, je lui vaporise l'entièreté de la bombe aérosol dans les yeux. Et ça dure très longtemps. Elle a les yeux écarquillés. Et elle me regarde. Ça fait très, très peur. Elle a les grands yeux bleus écarquillés vers moi. Et moi, je lui vide le contenu de la bombe aérosol dans ses yeux écarquillés. Et elle n'a aucune réaction, sauf à la fin de la bombe. Et finalement, elle dit « Ah oui, c'est vrai ». Que je dois tomber dans les pommes. Elle tombe dans les pommes par terre.
Et donc, je suis dans le bâtiment, je parle avec le jury, et puis, je sais pas, il se passait plein de choses, c'est super difficile à expliquer. À un certain point, j'ai un peu boycotté le truc, et on a eu une sorte d'occupation dans le bâtiment où tous les jeunes sont plus d'accord et font en sorte que les jurys et les témoins, tout ça, devraient faire, eux, leur exercice. Comme ça, eux, ils allaient aussi consacrer leur vie pour voir. Et donc, il y a eu tout un boycott, et je sais qu'on a... kidnapper des gens et ouais, bon, je sais pas, c'était super bizarre.
Sauf qu'elle me poursuit déjà encore, de nouveau, et j'arrive dans une autre rue où là j'arrive à me cacher dans une salle de bain qui donne directement sur la rue, qui est d'ailleurs une unique pièce. C'était vraiment deux portes battantes qui sortaient d'un mur et que tu donnais directement sur une salle de bain sans se mettre dans autre porte. Et je me recache dans cette salle de bain et je vois une espèce de bouteille en plastique remplie de poudre insecticide. Et là, je sens que Gina Davis revient et elle ouvre les portes de cette salle de bain. Et moi, je lui vaporise la tronche avec cette poudre insecticide.
Il y a dans la pièce un fauteuil en cuir... Je me ferai un passage et je m'y installe. La personne en face de moi m'interpelle et me dit « Ouais, comment tu oses t'asseoir dans ce fauteuil ? C'est la place d'un tel. » Moi, je ne connais pas les gens. La place d'un tel, je n'ai pas marqué sur le fauteuil. Pourtant, le fait d'avoir l'impression d'avoir pris la place de quelqu'un me met mal à l'aise. Je décide donc d'empoigner ce fauteuil et d'aller me mettre plus loin. Et finalement, je me retrouve d'être sortie de cette pièce, d'être sortie de cet immeuble, d'avoir ce fauteuil et de m'installer sur ce fauteuil et me laisser glisser sur une route qui descend, qui descend, qui descend. C'est super bon, ce fauteuil est confortable, ses roulettes glissent et m'emmènent en douceur, sans effort. Me voilà prise de remords. J'ai emmené ce fauteuil qui ne m'appartient pas. Il faut que je le rende. Si je ne le rends pas, je ne pourrai plus faire face aux gens. Je ne pourrai plus regarder tous ces gens qui étaient là à cette réunion. Tout le monde sait que c'est moi qui ai emmené ce fauteuil. Ok. Seulement, ça monte le chemin. Je ne sais pas, ce fauteuil ne va pas me reporter tout ce qui m'a fait dévaler. Je m'installe donc dans ce fauteuil et je cherche un chemin autre, moins pentu, à reprendre pour le ramener. Et je retrouve un petit chemin. Il fait noir. Je roule sur ce fauteuil. Sans doute, ce chemin descend encore. Et le chemin est un peu glauque. Je suis seule. Une voiture passe pleine de gens bruyants. Ils doivent trouver drôle cette fille qui est sur ce fauteuil et qui roule. La voiture fait demi-tour, je commence à m'inquiéter. Passée à ma hauteur, la personne dit « pas grave, c'est une vieille ». Et ils continuent leur chemin.
Alors j'ai une mission qui est d'aller chercher... quelque chose pour un bateau, une pièce pour un bateau, une grosse pièce qui manque à un bateau. Et donc c'est un jeu d'épreuves comme une chasse au trésor, mais c'est pas ludique, c'est plutôt stressant. Et je suis dans un sous-marin, un petit sous-marin qui m'entoure, dans lequel je peux pas beaucoup bouger. Et il y a de la rouille, il y a vraiment de la rouille partout. Mais je me souviens pas qu'il y ait de l'eau autour de moi. Et les espaces se transforment. On arrive dans une espèce de paysage que j'imagine être des steppes en Mongolie. Voilà, c'est ce que je crois pouvoir être la Mongolie. On est sur des chevaux, des très très grands chevaux. Moi, je suis sur un cheval qui fait au moins 5-6 fois ma taille. Et là, on doit passer encore des épreuves. Il y a plein de couleurs fluo et de rouille, encore de la rouille partout. Et les épreuves, elles sont plutôt sportives. On fait du tir à l'arc. On passe des très grands tirs à l'arc. Ils sont très beaux, ils semblent très anciens. Et ils sont faits de plein d'essences de bois différentes, avec des petits bouts colorés. Et c'est très puissant. La couleur, elle est très forte. Et là, je me rends compte qu'autour de moi, ce sont mes amis, en fait, sur les chevaux, qui ne ressemblent pas néanmoins à mes amis. Et que mes amis sont aussi les chevaux. Ils sont dans les chevaux.
J'arrive dans quelque chose qui ressemble à une brocante. Il y a de la lumière, c'est éclairé. Je décide de prendre mon fauteuil en main et de le porter pour le ramener. Je fais donc la brocante avec ce fauteuil. C'est lourd. Tout à coup, une des filles qui était à la réunion me voit et m'interpelle et elle me demande un conseil comme si elle savait que c'était quelqu'un qui aimait les fringues et qui pouvait faire de beaux ajustements. Elle me demande si ça va avec ça, si comment moi je le porterais. Je me sens tout à coup super valorisée, je dépose mon fauteuil et je commence à l'aider dans ses choix de vêtements et de bijoux pour les accompagner. Quand c'est fini, je lui dis que je dois y aller, que que je ramène le fauteuil. Et tout à coup, ce fauteuil est perdu dans tous les objets de brocante qu'il y a. Je commence à paniquer. Je fais marche arrière, je vais de stand en stand, je cherche après le fauteuil. Et si je le trouve, comment je vais dire que c'est mon fauteuil qui est même pas le mien, mais que c'est celui que je dois ramener? Je remonte donc. La réunion est finie, bien sûr. Je trouve quelqu'un qui m'indique pour m'emmener dans cet appart parce que je ne retrouve pas mon chemin. Quand j'ouvre la porte de cet appart, ils sont occupés à manger. C'est qui le propriétaire de l'appartement? Quelqu'un me le désigne. Je lui demande s'il ne veut pas en sortir, que j'aimerais lui parler. Il dit ok. Un de ses potes le suit. On se retrouve dehors. Dehors, il y a ma belle-mère qui est assise là, qui m'a finalement déposée en voiture et qui m'attend. Le pote s'assoit aussi. Le propriétaire n'est pas encore là. Je dis à qui veut l'entendre que j'aimerais parler à seul avec ce propriétaire. Ma belle-mère se lève, se raxe et me dit « Tu te débrouilleras pour rentrer toute seule. » Le pote ne bronche pas. Il se sent légitime, lui. J'attends. Il n'arrive pas. Derrière, il y a un champ. On a rassemblé toutes les bêtes du champ, des moutons, des vaches, pour faire poser pour une photo. Je vois donc le propriétaire de l'appartement dans lequel j'ai pris le fauteuil qui pose devant les bétails.
Il y a de plus en plus de monde, de plus en plus de chevaux tout autour. On est vraiment comme des fourmis. Et on galope sans s'arrêter. Ça dure vraiment hyper longtemps. Et là, il y a comme des structures de yourtes autour qui flottent. Elles sont pas posées au sol. Elles sont un tout petit peu au-dessus du sol. Et on continue à galoper avec mes amis à travers ces structures de yourtes. Et les structures de yourtes sont exactement de la même composition que les tirs à l'arc. Ensuite, on doit faire du lancer de javelot. Ils sont très gros, très très lourds très rouillés aussi. Et là, en fait, petit à petit, on n'est plus des personnes sur des chevaux, mais on est un peu à l'intérieur des chevaux. Il n'y a plus que notre tronc qui dépasse. On continue à galoper. Là, quelqu'un me tend un miroir et je me vois. Enfin, ce n'est pas moi, mais je sais que c'est moi. Et j'ai un bandeau de couleur en peinture sur le visage. Et en fait, on a tous ça sur le visage, mais on le voyait pas avant. Et ça nous procure une joie énorme d'avoir tous ça sur le visage. En fait, on nous dit qu'on est aux Jeux nomades mondiaux, mais qu'il n'y a pas de pièces de bateau à gagner.
Mais voilà, c'est ce que je peux expliquer. Le reste, je ne sais pas vraiment bien expliquer. Voilà, c'était très bizarre. Voilà, merci. Hein. Ciao, ciao.
Yeah. Veo como amasú te tera oreco a mí. Veo si ni a ni.
Donc, je me suis introduit dans un espace-temps assez inconnu. J'ai découvert d'abord une planète, et cette planète, en fait, c'était moi. Donc, j'ai voulu la découvrir. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout une planète, j'étais un système solaire. Et là, ça a un peu explosé, comme une sorte de Big Bang. Du coup, je me suis retrouvé à parler avec des licornes, mais bon, c'était pas le genre de licorne qu'on connaît d'habitude. C'était plus un cheval qui avait l'air super réaliste, avec juste une corne sur sa tête. Et puis, j'ai commencé à lui parler, et au lieu de me répondre, il me répondait pas, mais il parlait en langage insecte. Donc, j'ai pas tout à fait compris. Puis ensuite, je me suis évadé. Mais en m'évadant, en fait, je me suis retrouvé dans le même système solaire du début. Et ça recommençait en boucle, en boucle. Et au final, c'est moi qui suis devenu le cheval et qui me suis parlé à moi-même.
Donc, je suis dans l'espace. Et il y a une nuée de licornes qui volent autour de moi. Et c'est extrêmement beau, extrêmement grand, et j'ai conscience de l'infinité de l'espace autour de moi, en bas, en haut, partout. Je sais que c'est l'espace infini. Et ces licornes volent autour de moi, c'est vraiment une nuée, elles sont sublimes, et il y a une traînée de paillettes derrière elles. Et donc, j'observe ça, et tout d'un coup, je suis comme projetée sur Terre, et je me retrouve dans un jardin. C'est le jardin d'un pavillon de banlieue de la région parisienne. Donc, vraiment le pavillon typique, la petite villa bourgeoise. Et il y a le jardin. Et dans le jardin, dans l'allée, en face de l'entrée, il y a des gens qui sont rassemblés autour d'un cercueil. Ce cercueil est ouvert. Et je m'approche et je me rends compte que c'est moi qui suis dans le cercueil. Et donc, je suis morte et j'assiste à mon propre, enfin, à une veillée, c'est pas une veillée funèbre, mais j'assiste à une cérémonie funèbre autour de mon cercueil. Et donc, je vois tous ces gens qui sont là et qui sont venus pour mon enterrement. Ils sont tous extrêmement tristes. Et je me mets à pleurer parce que je me rends compte que je dois leur faire mes adieux. Et tout est, enfin, c'est vraiment pathétique. Et je pleure toutes les larmes de mon corps et c'est tellement difficile que je pense que la seule façon d'exprimer toute cette tristesse, ce serait de pleurer, de chanter, pardon. Et donc je me mets à chanter et je chante très très fort à tue-tête en pleurant toutes les larmes de mon corps. Je chante Only You et je ne connais pas les paroles, alors je chante en yaourt. Et donc je chante et je pleure et je pleure et je chante. Tout ce que je sais de cette chanson, c'est-à-dire un couplet, même pas, et le refrain. Et je pleure comme ça un moment jusqu'à ce que je me rende compte que je suis Louis de Funès.
Thank you.
Alors, je te cherche. Je te cherche pendant des heures et il y avait beaucoup de monde au début. C'est dans un immense site. Je sais plus trop où je suis. Et je finis par, par te trouver. Et t'es face à moi, mais devant toi, en fait, t'es en train d'embrasser une fille, une grande, blonde. Et puis tu me regardes en me disant que, dans ton regard, ce que tu me dis, c'est que tu savais très bien, enfin que je savais très bien à quoi j'avais affaire et que c'était normal que ça se passe comme ça. Là-dessus, je prends les clés parce que je voulais me rentrer me coucher dans ton camion. Et je prends les clés et mes entrailles se déchirent. Puis je vais dans le camion et tout au fond du camion, assis sur une chaise dans la pénombre, il y a un clown blanc qui m'attend, que j'ai jamais vu avant, qui ressemble à personne, avec son visage couvert de peinture qui est craquelé. Ses yeux sont complètement noirs, sa bouche et ses dents sont noires aussi, et il me sourit. Et avec ses yeux, il me dit la même chose plus ou moins que toi. Il me dit aussi que je savais très bien dans quoi je me mettais. Je savais très bien où j'allais. Et je sais que ce clown, bah, je suis censée finir avec lui et me défoncer avec lui et baiser avec lui. Et je me réveille.
I'm sorry.
y avait une multitude de petits personnages, qui, ceux qui sont dans ma tête en général et qui se parlent et qui s'entrechoquent, qui prenaient forme sur le haut de mon crâne. Et c'était très angoissant parce que je réalisais qu'autour de moi, tout le monde commençait à voir toutes mes pensées qui, qui avaient pris forme en une multitude de petits personnages qui ne faisaient que grandir. La hauteur, ça s'est arrêté quand ils avaient 2-3 cm, et donc il fallait que je trouve un moyen, le seul moyen de les cacher et que tout le monde ne découvre pas tout ce que j'avais dans la tête, c'était de trouver un haut de forme que je n'ai pas trouvé assez vite.
Mais elles veulent lancer une rumeur pour pourrir le milieu de la prostitution dans la région dans laquelle on est. Fin de séquence, la séquence suivante, on est sur une longue route. Sur le côté gauche de la route, il y a une falaise, une montagne, avec parfois des entrées, mais c'est une ligne verticale droite. Sur le côté droit de la route, il y a une petite digue, et de l'autre côté de la digue, il y a des tonnelles, des centaines et des centaines de tonnelles, comme s'il y avait un événement public, une fête de l'agriculture ou quelque chose comme ça. Mais on sait que ça rassemble, dans les tonnelles, il y a du beau monde, il y a de la bourgeoisie, on va dire. Sur la route, il y a des putes, mais des centaines de putes. Et il y a un grand flic, c'est un grand flamand, c'est le comique de la série, mais qui a de la voix comme ça, qui a du caractère, et qui crie à toutes les putes de sortir des tonnelles, parce qu'il y en a certaines qui travaillent, qui sont en train de travailler, donc de sucer, de se faire niquer dans les tonnelles, avec la bourgeoisie, et qui les fait toutes sortir. Il leur crie qu'il faut que c'est fini, qu'il faut que ça s'arrête et qu'il faut que tout le monde le suive. Et donc les putes, tout de suite, elles disent « Mais c'est pas nous, il n'y a pas que nous. Regardez, c'est nos Macs. » Et en fait, il y a des centaines de Macs, mettons plutôt 40 Macs, des macros, qui sont tous contre la montagne, sur le côté gauche. Ils sont contre la montagne, sur un espèce de rebord. Ils sont plus ou moins allongés, assis, ils font rien. Et donc toutes les putes dénoncent tout de suite leurs Macs. Et le grand flic dit vous êtes mal barré parce que regardez les macros, ils sont en train de se faire attaquer par les crocodiles. Et donc il y a genre 400 crocodiles tout petits, grands 40 cm en moyenne, qui les attaquent, qui les mangent par petits bouts. Et alors là, les effets spéciaux sont très mal faits parce que les crocodiles sont très statiques et avancent sur une ligne droite comme ça, avancent et reculent pour signifier qu'ils sont en train de manger les macs. Qui, eux, agitent les bras et crient et ont mal, mais ils jouent aussi très mal. Et au milieu de tous les crocodiles, il y a même un petit stégosaure de 20 cm qui attaque aussi les macs et qui les mange. Donc les putes crient en disant « c'est horrible, il faut arrêter ça ». Et notre grand flic flamand crie « c'est pas tout, regardez, de toute façon, il y a aussi la lave qui arrive ». Et du haut de la montagne, il y a une grande vague de lave qui dévale la montagne et qui descend, et on voit que ça va descendre sur les macs et même les putes. Et même tout le monde, en fait. Et ils se font recouvrir de lave, et les putes se font recouvrir de lave, et la lave s'arrête juste sur la petite digue qui protège le bon peuple qui sont dans les tonnelles. Entre-temps, les deux flics, la petite jolie de la deuxième scène et le grand flamand, ont passé la digue et regardent ça, les mains sur les hanches, satisfaits de l'opération. Et la lave refroidit, ça devient une cendre blanche, un peu bouillasse comme ça. Et le grand flic repasse de l'autre côté, met les pieds dans la lave qui est froide maintenant. Il dit « Bon, les survivants, levez-vous !» Et donc il y a plein de... En fait, toutes les putes se lèvent. Elles sont recouvertes de boue blanche et elles sont un peu... Elles ont froid, elles sont un peu mouillées, elles sont un peu tristes comme ça, un peu honteuses. Et le flamand dit « Bon, vous suivez la dame qui a la peau rose ?» Et donc ça, c'est la jolie flic de la deuxième séquence qui marche et qui marche en avant et toutes les putes, les centaines de putes la suivent jusqu'à une entrée dans la montagne. Et une toute petite entrée, elle rentre en file indienne et il y a les macs qui sont à côté de l'entrée et qui ont encore froid, qui voudraient bien rentrer, mais personne ne les laisse rentrer et qui sont tout honteux. Et les deux flics se regardent et se souviennent que le plan, c'était pas du tout ça. Que le plan, c'était de lancer une rumeur dans le milieu de la prostitution.
Et puis, je me retrouve, je me dis que le match est terminé, donc je monte dans un château d'eau qui est l'annexe, en fait, de ce stade. Et je connais très bien les lieux. Je me repère très facilement et je sais même que ce lieu est habité par deux autres personnes. Voilà, donc je les connais très bien aussi. Mais je sais que ce lieu a été secoué en fait par des histoires assez sordides. Je me souviens justement d'une histoire qui avait secoué ce lieu. C'était une femme aux yeux rapprochés, à l'air assez livide, qui avait jeté d'une fenêtre justement de cette tour. Elle avait précipité un enfant en chaise roulante qui n'avait plus l'usage de ses jambes. Et elle avait commis ce geste de manière un peu détachée, comme si elle voulait se débarrasser de quelque chose qui l'encombrait, quelque chose qu'elle devait accomplir. Donc elle n'avait pas vraiment, dans ce geste, elle n'assumait pas du tout en fait ce geste. Parce qu'elle l'avait fait sous l'emprise d'un homme, ça c'est la deuxième personne qui réside là. Un homme aux cheveux grisonnants, cheveux gominés, assez courts, plaqués sur le côté, pantalon taille haute, et il prend soin de sa ligne. Ça, il m'en a souvent parlé. Et donc, on se retrouve dans la cuisine et je lui révèle que moi, je veux prendre un petit déjeuner sucré. Et lui, il me dit que c'est intolérable, quoi, qu'il faut prendre des petits déjeuners salés, que lui, le matin, il mange des légumes, des œufs, de la viande, et que c'est ça qu'il faut faire. Et donc, à ce moment-là, moi, je suis un peu perturbé par cette annonce. Je le trouve supérieur et je suis un peu jaloux, en fait. Je me sens un peu déstabilisé. Et donc, on se retrouve autour de la table pour petit déjeuner. Et apparaît donc cette femme livide, aux yeux rapprochés, que je trouve encore plus livide. Et elle me dit qu'elle a commencé à se suicider. Et effectivement, en fait, à son poignet, je vois qu'elle a effectué deux petites perforations, d'où s'écoule le sang de manière un peu tendre, comme ça, un peu doucement, goutte à goutte. Et ça nous paraît tout à fait normal, on ne s'inquiète pas. Donc on prend ce petit-déj, et je sais qu'après, cette femme a enjambé la fenêtre, là où elle avait précipité l'enfant qui avait perdu l'usage de ses jambes. Et donc, dans ce geste de défenestration, le type veut la maintenir, veut la rattraper, et elle l'emporte dans sa chute. Et durant cette chute, et elle dure d'ailleurs 7 secondes, parce qu'elle se dit ça va durer 7 secondes, durant cette chute, elle se demande si la réception donc sur le sol va lui procurer beaucoup de douleur, est-ce qu'elle va survivre, est-ce que ses genoux vont monter à l'intérieur de sa cage thoracique. Et le type tombe avant elle, et jusqu'au dernier moment, elle voit le regard de ce type. Ensuite, elle s'écrase, elle meurt, et moi, j'hérite du château d'eau.
Chez moi, enfin chez mes parents, il y a mes sœurs et moi, et ma mère qui est en train de parler à une petite fille, et elle a un appareil photo dans les mains, numérique de mauvaise qualité, et elle lui dit « Oui, faut que je le reprenne, c'est à ma fille, je te l'avais prêté, mais maintenant j'aimerais bien le reprendre, c'est à Agathe ». Et la petite fille, elle lui dit « Mais non, et tout, c'est pas vrai, tu me l'avais donné, machin. » Et en fait, elle lui dit mais tu sais, ton père... » Enfin, elle lui dit « Mais tu sais, moi, mon amoureux, il a un nom qui est le même nom qu'une touche sur cet appareil photo. » Et donc, moi, j'entends ça un peu de loin. Et donc, en fait, après, je prends l'appareil photo dans mes mains et j'essaie de trouver le nom de son amoureux, enfin, de l'amoureux de ma mère. Donc c'est son amant en fait, elle trompe mon père avec cet amoureux qui a le même nom qu'un bouton sur cet appareil photo. Et donc je vois en fait un moment sur le bouton, c'est marqué J, J-I. Et donc c'était un asiatique qui s'appelait genre J.
J'ai vu ma mère. Elle avait une expression inhabituelle. Peut-être un peu distraite. Je la regarde et je vois qu'elle a une grosse bite. Elle a une bite énorme. une bite aussi creuse que je n'ai jamais vue et elle me pissait dessus.
Je suis dans un salon, je suis avec une amie, c'est Maud, et elle me coince les deux pouces entre ses cuisses. Alors je fais le poirier sur ses cuisses, donc je suis dans une sorte d'équilibre instable et je m'écroule sur sa tête. Je me relève et je vois son visage qu'elle a très mal. Elle a une grimace qui la défigure. Et à ce moment-là, alors je prends de la pommade et je lui masse la nuque.
Mais je regardais mes jambes qui étaient nudes et je me rends compte qu'ils sont un peu collés bizarrement l'un contre l'autre. Et j'essaye de le écarter et je le fais et ça va un tout petit peu. Ça décolle. Mais pendant que je fais ça, je vois que sur ma jambe aussi, il y a des tout petits boules de chair qui sont ensemble. Et c'est un vu très étrange et je ne comprends pas trop ce que c'est. Sauf que je suis consciente que c'est mon chair. Et c'est un peu angoissant. Et mon copain, il dit, t'inquiète pas, je vais regarder, j'ai ici une encyclopédie médical, je vais chercher ce que tu as. Il regarde et très vite, il trouve la solution. Il est très content et il hurle. Je l'ai trouvé, tu as Hemberalis psoriasis. Et du coup, je me rends compte que ça ressemble vraiment super fort à du gingembre sur mon peau.
J'avais des petits orteils qui poussaient entre mes orteils. C'était super moche. Et donc, j'écartais mes orteils à chaque fois que je les écartais. Je voyais qu'il y en avait un petit qui prenait forme et qui grandissait aussi, comme les personnages sur mon crâne un peu plus tôt. Mais donc, je me suis retrouvée en l'espace de mon rêve, en tout cas avec non plus 10 orteils, mais le double.
J'avais une langue j'avais une langue qui était placée juste au-dessus de mon clitoris. Et en fait, c'était super pratique. Donc, je me souviens, il y avait toute ma famille au grand complet que je vois presque jamais. J'étais installée entre ma marraine, en fait, j'ai pas vu depuis 10 ans, et mon petit frère. Et en fait, du coup, avec cette langue, en fait, je pouvais tout simplement me faire des auto-cunilingus. C'était super pratique. Et dans mon rêve, c'était juste comme si je découvrais en fait que j'avais cet organe. Qui avait toujours été là, simplement je m'en étais pas rendu compte.
J'étais dans un musée et je regardais il y avait des peintures, des tableaux sur toile accrochés au mur. Et je passais un peu de salle en salle. Il y avait des passages où il y avait sur le côté des grandes baies vitrées. Et j'avais ma mère au téléphone. Et je sais plus ce qu'elle me racontait au téléphone, mais à un moment, dans une des vitres, je vois son corps, son reflet. Derrière, il y avait un tableau aussi de dessiné de corps, donc ça se mélangeait à son reflet et le reflet de la peinture. Et en fait, il y avait un pénis qui sortait de sa chatte.
Il y avait le copain de l'époque. Il était nu et il se tenait en comme un embryon, mais il flottait dans l'espace, un peu comme un embryon qui flotte. Mais c'était bien lui en adulte. Et d'abord, il flotte, il est comme en apesanteur, il se tourne sur lui-même et il se déplie. Et je vois qu'il a dans la main un coussin, le coussin violet, un peu mon objet de transition. Quand j'avais 3 ans environ, je pense que c'était la première fois que je me suis masturbée, c'était avec un coussin en velours. Violet. Et sur ce coussin, il me présente un espace d'énorme étrang. Il me présente, mais j'arrivais pas à comprendre si c'était son étrang ou le mien. Et puis, il me propose de masturber avec. C'était vraiment très, très bizarre.
je me suis retrouvé dans un hangar, je ne sais pas comment. De là, j'essaye de rentrer dans l'hangar. Je trouve une porte à moitié ouverte. En y rentrant, je change d'apparence et me retrouve avec une arme que j'ai trouvée je ne sais pas comment. Et dans cette salle où je me suis retrouvé, il y avait une vingtaine de personnes qui étaient là pour une raison qui m'était inconnue. Je pense que c'était une sorte de regroupement de personnes les plus dangereuses au monde, juste par plaisir ou pour inaugurer une certaine chose que je ne sais pas. Puis là, derrière moi, il y avait un bac rempli d'armes. Donc je me disais qu'il fallait que je pose mon arme là-bas pour, par sécurité envers eux. Donc je me suis informé autour de moi pour voir si quelqu'un pouvait m'indiquer quelque chose par rapport à ça, mais il n'y avait personne pour m'aider. De là, il y a un homme qui est arrivé vers moi, un métis avec les lèvres roses, qui m'a fait la bise, mais d'une manière assez étrange, en frottant sa tête de haut en bas sur le haut de mon crâne. Il faisait la même chose avec tout le monde, mis à part avec ma copine qui était à mes côtés. Là, il l'a embrassée. À ce moment-là, j'ai eu une grande rage en moi. Mais je me disais qu'il fallait que je fasse rien, juste que je reste là à rien faire et attendre ce qui allait se passer. Du coup, par après, il y a eu comme des flashs de stroboscope qui étaient dans la pièce. Et là, l'homme qui avait embrassé ma copine avait changé de forme comme j'avais changé auparavant de forme. Était devenu blanc avec des yeux énormes. Et il m'a plaqué contre le mur. Il m'a enfoncé son poing dans l'anus. Et là, j'étais en train de boire une coupe de champagne et elle a explosé dans mes lèvres. Et j'avais tellement de haine, je voulais le repousser. En voulant le repousser, j'ai encore plus éclaté les boudeurs de la coupe de champagne dans ma bouche. Puis les lumières sont revenues à la normale. Je me suis assis pour enlever tous les bouts de verre qui étaient dans ma bouche. Et là, tout le monde me regardait.
Juste là, à la fin d'un couloir, il avait une figure énorme, toute noire, avec des longs bras et des vraiment longues jambes. Mais elle n'avait pas un visage normal, c'était juste une feuille de papier un peu rond, collé à sa tête. Et elle n'avait pas des yeux, c'était juste deux choses noires profondes. Et quand j'essaie de parler à ma famille de la chose qu'il y a dans la maison, personne ne me comprend et ils ne se rendent pas compte de danger. Et après, quand je me suis tournée encore une fois pour contrôler le monstre, il était plus là. Il était de l'autre côté du couloir, plus près à nous. Et encore une fois, j'essaie de dire à ma famille que c'est pas bien d'être là, qu'on doit partir, qu'il y a un monstre qui nous regarde. Mais cette fois, je peux plus parler et il y a rien qui sort de ma bouche. Il y a pas de paroles, il y a pas de rien. Et le monstre, il est chaque fois plus près à nous. Et quand je me suis tournée une dernière fois, il était vraiment pas loin. Et donc, je ferme mes yeux. Mais quand je les ouvre, il est encore plus près à moi. Et je ferme mes yeux encore. Et quand je les ouvre, il est devant de moi.
J'avais quelque chose dans l'estomac. Je savais pas ce que c'était, mais je le sentais. Je le sentais même pendant... Enfin, c'était réel. Il y avait quelque chose dans mon estomac ou dans ma gorge. Et je sais pas, j'essaye de tousser ou de sortir ce qu'il y a dans ma gorge. Et je prends ma main et je vais dans ma gorge. Et avec mon doigt, je vais plus profond et plus profond jusque dans mon estomac. Et puis dans mon estomac, je sens que une espèce de je sais pas quoi, mais quelque chose mord dans mon doigt. Et ben, il mord toujours et je sors mon doigt petit à petit, donc de ma gorge, et je vois que je sors mon doigt avec un crop. Comment on dit un crop? C'est un truc qu'on trouve sur la plage, tu vois. Et un crabe, ouais. Et voilà, et je regarde et il mord toujours mon doigt. Il avait des couleurs extraordinaires, très spéciales. Et puis je sens qu'il y en a encore et je le refais. Donc je vais avec ma main dans ma gorge, dans mon estomac. Et de nouveau, je sens qu'il y a un autre crabe qui mord dans mon doigt. Et je le ressors, et cette fois-ci, c'est un autre, un peu plus petit, des autres couleurs, plutôt vert, avec noir. Et puis, il y en a encore, et encore. Et j'en sors plein, quoi. Allez, petit à petit, je les sors tous. Et on a tellement beaucoup, des grands, des petites. Et voilà, on est sortis 50, quelque chose comme ça.
Il s'est trouvé qu'il y avait une toilette dans une sorte de cabane. À l'écriteau, à l'entrée de cette toilette, il y avait un dessin de cœur. Et puis, donc, je vois cette cabane, et puis en dessous, je vois Madonna. Et puis, à un moment donné, je vois des têtes de crâne, de têtes de mort sur mon bras qui poussent. Plusieurs têtes de mort. J'essaie de les enlever et en fait, c'est de plus en plus dur. Ça gonfle de plus en plus sur mes bras.
Et je commence à cuisiner le repas. Et en fait, c'était mon caca. Et donc, je commence à cuisiner mon caca. Il me semble qu'il y avait d'autres aliments. Ou alors, c'était un caca, mais avec plein de boue. C'était pas vraiment uni comme matière. Et j'étais avec des amis. Et je pense qu'on était obligés de le faire. Je sais pas s'il y avait une pénurie de nourriture ou pas, mais... Voilà. Et après, quand c'était prêt, ça ressemblait. J'ai servi les assiettes, ça ressemblait à un peu à un boudin, mais de nouveau avec plein de morceaux réassemblés. Et on a commencé à manger. Et je me souviens de l'odeur déjà qui avait parfumé un peu tout l'appartement, enfin parfumé. Et du goût aussi qui, ça ressemblait à du boudin, une sorte de boudin, mais avec un arrière-goût vachement amer. En fait, ça goûtait ce que ça sent.
J'arrive à la maison et je vois que Emma, ma fille, est là et puis qu'elle s'est fait amputer les deux bras et les deux jambes. Et elle est hyper contente. Elle est trop contente parce qu'à l'école, maintenant, ça se fait et puis il n'y a pas tout le monde qui a le droit. Et puis elle s'est dit que moi, j'étais cool et puis que du coup, elle pouvait faire ça. Et c'est hyper hip et elle est hyper à la mode. Et moi, je me dis, mais je ne sais pas comment lui dire. Comment lui dire que... Elle se rend pas compte, ça va pas repousser. Et puis pour danser, parce qu'elle fait de la danse, ça va quand même vraiment pas être facile.
La première chose que j'ai vue, c'était une petite canette de tomates qu'on achète normalement au supermarché. Je savais, parce que j'avais ça dans mes mains, et je savais que c'était la naissance de mon fils. Et donc, c'était moi à ouvrir... cette canette, et quand j'ai regardé dedans, il avait une fille, et donc c'était pas un fils, une fille. Elle était presque la même, avait le même visage de la fille de ma belle-sœur, et c'était incroyable. Les yeux étaient bien verts et ouverts, et voilà, j'étais émotionné par ça. Mais je devais quand même ouvrir encore une autre partie de la canette pour que elle pouvait sortir. Et donc, comme ça, j'ai fait. J'ai trouvé une façon d'agrandir les trous de l'ouverture. Et comme ça, j'ai retiré ma fille de la canette. Et donc, ça continuait toute la journée. Et la croissance de ma fille a eu une vitesse différente de normal. Après une journée, j'avais l'impression qu'elle avait déjà 15 ans.
J'étais une fleur, une marguerite, avec un centre jaune et des pétales blanches. Et j'étais à côté d'un tuyau d'eau, un tuyau d'arrosage, et l'eau n'arrêtait pas de couler. J'étais assez content au début, et à un moment donné, l'eau continue à couler, et ça devenait de plus en plus haut, et j'arrivais plus à respirer parce que j'avais l'impression de couler. Et j'appelais, au secours, au secours. Mais personne ne m'entendait parce que j'étais une toute petite fleur.
Nous arrivons à la fin de cette émission Zéro, spécial rêve, enregistré par Gogolplex. Avant toute chose, nous tenons à remercier Igor, Lara, Nima, Maya, Fontz, Marlon, Christian, René, Alice, Pascal, Yanni, Elsa, Michel, Ness, Zaya, Morgan, Emmanuel, Moon, Laura, Dan, Felicia, Lou, Sacha, Jeanne, Emile, Raphaël, Elena, Etena, Auré, Agnésé, Carla, Père, Ariane, Antonin, Sacha, Gabriel, Rema, Fred, Montaigne, Félix, Mathéo, Mani, Nimami, Marcel, Yvonne, Mathilde, Melu, Mathilde, Maran, Inke, Serena, Musa, Elisabeth, Amine, Oussana, Ilyes, Quentin, Brian, Pedro, Chantal, Carlos, Inge, Ayumé, Sergei, Rami, Mila, Alice, Julie, Sacha, Réis, Martine, Agathe, Alberto, Berg, Manuel, Fedra, Anomi, Clément, JR, Paolo, Yo, Randall, Marine, Myrine et Laurence. Pour leur participation au projet, et leur confiance aveugle à trois inconnus, qui les emmènent derrière un rideau noir, pour leur demander de raconter ce dont ils rêvent la nuit. Merci. Nous vous rappelons que Gogolplex enregistre encore vos rêves, jusqu'au 12 octobre. Du lundi au vendredi, de 10h à 18h ou sur rendez-vous, au 91 rue de Flandre, 1000 Bruxelles. Quant à émission 0, la prochaine sera le lundi 16 octobre à 22h30 avec Elvarez. Gogolplex vous souhaite une bonne nuit, et vous dit à demain, pour tout nous raconter. Bisous. Cucheuse, c'est la poêle. Now I know, and I breathe, all the things I can receive. Ever since I was younger, I used to dream of dreams of you. But I just don't really remember, when I lost that dream. Just a young boy,
as good as you.